Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bonjour, bonjour, bon mardi, j'espère que vous allez bien. Le compte à rebours est bien, bien parti avant dernière émission de C'est bon pour la santé. On se dirige réellement vers l'été et on en parlera dans quelques instants de l'été que l'on adore, mais qui amène parfois des petits bobos. Avant, je vous présente le deuxième sujet de l'émission, vous dire que 40 millions de personnes... C'est un grand chiffre, un gros nombre, hein, ça. Ce sont les personnes qui sont touchées par la démence dans le monde, des données tirées de 2013. Et en 2050, on prévoit que ce chiffre pourrait tripler. Ça commence à faire pas mal de monde pour atteindre plus de 130 millions de personnes. Et ça, c'est sans compter les proches, les familles qui sont directement liées dans ce type de problématique de santé. Est-ce que l'on peut aller jusqu'à dire que l'on parle d'épidémie mondiale. Certains l'affirment, mais du moins, et on en parlera à notre invité en deuxième partie d'émission, bien sûr, mais du moins, c'est pas étonnant que la démence soit reconnue comme une priorité de santé publique et que la communauté scientifique internationale axe les efforts en ce moment sur le plan de la recherche, de la prévention, bien sûr, et de l'amélioration des soins. C'est ce que s'efforce à faire mon invité de tout à l'heure, Dr. Antoine Hakim. Il est neurologue à l'Hôpital d'Ottawa, professeur à la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Il vient tout juste de sortir un livre aux éditions de l'Homme, Préserver votre vitalité mentale. Ce sera un plaisir de le recevoir tout à l'heure. Mais pour le moment, je reviens à cette saison estivale que l'on adore, mais qui amène parfois son lot de petits bobos, comme je dirais, coups de chaleur, coups de soleil, piqûres d'insectes. Comment prévenir et surtout comment adopter le bon geste lorsque ça arrive, soit à nous, soit à nos enfants, nos proches. On en parle à l'instant avec notre infirmière en résidence, Justine Gadebois. Bonjour Jocelyne.
Bonjour Marianne.
Un plaisir de vous avoir ici en studio. Ça sera la dernière chronique.
La dernière chronique de l'année. L'été.
Un plaisir de vous avoir eu avec nous pendant toute l'année, Jocelyne. Vous et vos précieux conseils d'infirmière. Aujourd'hui, on voulait faire une chronique petits bobos et grands mots de l'été parce que, bon, parfois, c'est sans grande incidence. Parfois, ça peut être un peu plus embêtant.
Oui.
On voulait commencer d'abord par les piqûres d'insectes. Parce qu'on le sait, c'est la saison, parfois plus mineure, parfois plus embêtant. Quel insecte surveiller pendant l'été?
Bien, écoutez, les insectes que l'on connaît autour de nous présentement, les mouches, les maringouins, les guêpes, les abeilles, les araignées même peuvent nous piquer. Alors, tous ces insectes-là, on va essayer de ne pas les avoir près de nous. Alors, tantôt, on va parler de comment prévenir les piqûres. Je vais énumérer à ce moment-là des moyens de prévention. Mais je ne peux pas passer sous silence le virus du Nil, qui se transmet par les insectes, une piqûre infectée. Alors, les personnes les plus à risque sont 50 ans et plus ou les personnes qui ont des maladies chroniques. Et le virus du Nil, habituellement, il n'y a pas de symptômes immédiatement. S'il y a des symptômes, ils vont apparaître de 2 à 14 jours après, par des maux de tête, par de la fièvre, des douleurs musculaires ou des éruptions de boutons ou de rougeurs sur la peau. Bien sûr, il faut consulter le médecin.
Oui. Virus du Nil, Jocelyne, est-ce que ça peut arriver ici au Québec?
Absolument.
Ah oui?
Ah oui, absolument. On en a. J'ai pas de statistiques aujourd'hui sur le virus du Nil, mais il est présent.
OK. Oui. Et j'imagine que l'on est plus sujet si on est en camping, en milieu peut-être plus en forêt, par exemple?
Bien, on est plus sujet si on est dans un milieu de moustiques.
OK.
Et puis allons-y pour la prévention des piqûres. Partout où il y a des étangs d'eau, ou de l'eau stagnante, ben il y aura des moustiques. Il y a des périodes aussi dans la journée où il y a plus de moustiques, le matin, puis à l'heure du souper, je dirais. Alors, ces heures-là sont à éviter pour être en contact avec les moustiques, où on se protège deux fois plus.
Oui.
Alors, les gouttières de maison ont de l'eau stagnante également. Alors, il faut, de temps en temps, enlever ces eaux stagnantes-là. Oui. C'est surtout ce point-là qu'il faut surveiller dans nos environnements urbains. Et puis, comment on peut se prévenir des piqûres? Utiliser un chasse-moustique, bien sûr, lors des activités extérieures, porter des vêtements longs et clairs, et puis installer des moustiquaires au bon endroit. Et surtout, si on va en camping, avoir des bons moustiquaires pour nous isoler. Et puis, ben, comme je l'ai dit, toujours réduire l'eau stagnante dans notre environnement.
Oui. Et voilà. On traite si ça démange. Bon, bien sûr, virus du Nil, on comprend bien qu'on doit aller consulter rapidement. Sinon, on traite avec une petite calamine.
Une petite calamine, tout simplement, ou de l'eau froide.
Maladie de Lyme, on ne peut pas éviter d'en parler de plus en plus. Là, les statistiques le révèlent. Les Québécois sont touchés dans certaines, notamment la Montérégie. Qui est touchée. Ça, c'est préoccupant, Jocelyne, parce qu'il y a des impacts sur le quotidien lorsque l'on est piqué et des symptômes assez importants.
Absolument. Et la maladie de Lyme, c'est provoqué par la piqûre d'une tique. Mm-hmm. Alors, ce n'est pas toutes les tiques qui sont infectées, par exemple. Alors, on dénote au Québec, dans la Montérégie, dans le sud-ouest de la Mauricie, le centre du Québec et le nord et l'ouest de l'Estrie, une progression significative de la maladie de Lyme. Mm-hmm. Donc, on dit qu'il est en progression au Québec. Mm-hmm. Il est causé, la maladie de Lyme, c'est causé par une bactérie qui se transmet par la piqûre d'une tique infectée. Mm-hmm. Donc, c'est comme une infection. Ça se présente avec les symptômes d'une infection, de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête, raideur de la nuque, douleurs musculaires et douleurs articulaires. La rougeur peut s'étendre à 5 cm au moment autour de du lieu de la localisation de la piqûre. Et en 2014, on a dénombré 63 personnes infectées par la maladie de Lyme. Mm-hmm. Alors, voilà pourquoi il faut se prémunir de cette tique,
demeurer cette fichue vigilant. Tique. Oui. Maintenant, on change de catégorie, Jocelyne. Coup de chaleur, coup de soleil, insolation, bien sûr. Un coup de soleil, c'est peut-être un petit peu moins majeur qu'un coup de chaleur qui peut être assez, assez grave.
C'est-à-dire qu'un coup de soleil, c'est une brûlure. Oui. C'est une brûlure par les rayons du soleil, UVA, UVB. C'est vraiment la peau qui est brûlée. Alors, il faut vous donner des soins de brûlure de peau. Alors, l'application d'eau froide, des compresses froides, puis prendre aussi des analgésiques comme de l'acétaminophène parce que ça peut faire mal, dépendant de quelle couche de l'épiderme et quelle couche de peau est touchée. Mm-hmm. Maintenant, un coup de chaleur puis une insolation, c'est la même chose.
Okay.
Ces deux mots-là sont synonymes. Un coup de chaleur, c'est vraiment, ça atteint tout le corps au complet. On peut faire de l'hypotension. Nos signes vitaux sont affectés, veut pas. Soit, pour certaines personnes, leur cœur va battre très vite ou va battre très lentement, mm-hmm. puis la tension artérielle va descendre. Alors, des risques d'étourdissement, des risques de vertige, des risques de chute, puis des risques de perte de conscience aussi également.
Mais l'insolation, le coup de chaleur ne vont pas nécessairement avec la brûlure.
Non.
Ah oui.
Deux choses complètement différentes. Le plus grand risque d'un coup de chaleur, c'est la déshydratation.
OK.
Alors voilà, c'est vraiment tous les problèmes reliés à la déshydratation, la peau sèche, les muqueuses sèches, et le reste qui s'ensuit, on ne va pas uriner, alors ça devient
donc, évidemment,
ça peut être plus grave.
On s'hydrate.
On s'hydrate.
Et ce que l'on sait, c'est que les populations vieillissantes, les personnes âgées, ressentent peut-être un petit peu moins les signaux de soif, donc il faut être plus vigilant si on en a dans notre
entourage.
Absolument.
Puis les signaux là, d'alarme, c'est vraiment l'étourdissement, la fatigue, les maux de tête et la confusion même de la fièvre. On dénote, la santé publique a mis des balises. Chaleur accablante, c'est 30 degrés et 30 degrés centigrades là, température et 40 degrés d'humidité.
Okay.
Ça, c'est chaleur accablante. Une chaleur extrême, c'est 3 jours à 33 degrés Celsius et 2 nuits où la température reste plus que 25
c'est la canicule,
degrés.
Ça,
ça, c'est la grosse canicule et c'est là qu'on met nos mesures en place.
Et c'est là qu'on peut-être on lance un petit coup de fil à un proche plus âgé dans notre entourage, juste
exactement.
Lui demander « t'oublie pas de boire hein? ».
Exactement.
Évidemment,
oui.
Chapeau.
Chapeau, ombre, aller dans les endroits d'air climatisé, ventilation aussi, faire circuler l'air autour de nous, puis boire notre tasse d'eau régulièrement.
Oui. On n'aura pas le temps, Jocelyne, d'aborder ensemble tout ce qui est brûlure, plaie, foulure. On le sait, évidemment, ce sont des mots et des bobos aussi qui sont assez récurrents l'été. Je veux, par contre, que l'on parle de noyade, parce que ça aussi, c'est préoccupant. Il y en a toujours trop à chaque année. On s'assure de quoi, là, pour éviter, bien sûr? On pense surtout aux petits, hein, d'entrée de jeu.
Oui, mais la société de comment ça s'appelle, la sauvegarde du Québec, je ne me rappelle plus. En tout cas, je vous le dirai, puis vous pourrez l'écrire sur le site. Avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, ont publié un petit manuel qu'on peut avoir sur Facebook, et ça s'appelle « Encadrement sécuritaire des groupes d'enfants en milieu aquatique ». Trois choses. Ce sont des comportements. Alors, les parents ou les sauveteurs ou les personnes accompagnantes, on ne quitte pas des yeux les enfants. Même pas une minute. Ensuite, le port de la ceinture de sécurité, adapté à l'enfant, évidemment. Et puis, évidemment, connaître le milieu d'eau où l'enfant se baigne. Voilà. Les profondeurs, puis aussi les limites de l'enfant, puis les consignes qu'il faut donner à l'enfant.
Si on arrive près d'une rivière, on ne s'y aventure pas, si on ne connaît pas ce si coin on connaît de, pas. D'eau-là.
Non, oui. Et c'est le port... du vêtement de flottaison individuel qui est la clé. Puis, il ne faut pas croire un enfant non plus qui dit qu'il sait nager. Il peut s'être baigné puis il dit « Ah oui, je sais nager ». Alors, il faut vraiment vérifier ses habiletés à nager. Alors, ce petit livre-là, on peut l'avoir sur Internet, c'est du gouvernement du Québec. Oui. Et puis, ça s'appelle « Encadrement sécuritaire des groupes d'enfants en milieu aquatique ». Et vous trouverez tout.
Oui. Société de sauvetage et Croix-Rouge également.
Oui, on collabore.
On glissera tout ça sur notre site. Jocelyne Gadebois, merci beaucoup. Grâce à vous, on passera un été non seulement en santé, mais en sécurité pour mieux se retrouver à l'automne. Un grand plaisir d'avoir partagé ces moments avec vous au cours de l'année. Jocelyne Gadebois, infirmière, merci.
Merci beaucoup à toi, Marianne, et bon été.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@vusevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Docteur Hakim, bonjour.
Bonjour.
Antoine Hakim, vous êtes neurologue à l'Hôpital d'Ottawa, professeur à la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Et là, pour nous parler de cette nouvelle parution, préserver votre vitalité mentale, cette règle pour prévenir la démence. Et ce qu'il y a de très intéressant dans votre livre, Docteur Hakim, c'est que l'on saisit assez rapidement que le cerveau, c'est un organe qui est fascinant, hein? Qui est complètement extraordinaire.
J'en conviens.
Qui est complexe, qui est également fragile, et que c'est nous le patron de tout ça.
Voilà.
Ce qui est inquiétant, et ce qui inquiète bien des gens qui sont peut-être plus âgés, mais je pense que ça concerne tout le monde, c'est qu'à un moment donné, on craint de ne plus être patron de cet organe qui gouverne un peu tout. C'est ça un peu la démence.
Tout à fait, tout à fait. Vous avez parfaitement cerné le problème et ce qui fait peur au monde, c'est justement qu'il perd de ce contrôle sur le cerveau qui est notre organe principal qui nous amène pas seulement notre mémoire du passé, qui nous amène notre personnalité, qui nous permet de prendre des décisions qu'il faut et les bonnes. Mais ce que le livre essaye de dire, c'est que nous avons aussi un certain contrôle sur le risque que nous avons de souffrir de la démence. Ce n'est pas parce que le bon Dieu ne vous aime plus qu'il vous envoie la démence. C'est parce que on a fait des choses qui nous ont amené une diminution du débit sanguin au cerveau. Et le cerveau, c'est comme une machine qui roule à pleine vitesse et tout le temps. Ce cerveau a absolument besoin d'un débit sanguin suffisant. Si on commence à le diminuer, ce débit sanguin, la perfusion sanguine au cerveau, si elle diminue, eh bien, ce n'est pas des bonnes nouvelles en ce qui concerne la façon de laquelle notre cerveau fonctionne.
Oui. Et ce que vous expliquez, c'est que, oui, il y a le bon Dieu, c'est pas parce qu'il nous aime ou nous aime pas, mais c'est pas nécessairement parce qu'il y a eu de la démence dans notre famille, de l'Alzheimer également, qu'on sera touché. On peut éviter ces impacts
Tout
sur notre cerveau.
Alors, je ne nie pas l'existence de la maladie d'Alzheimer. Elle existe, cette maladie-là. C'est l'accumulation excessive de protéines toxiques au cerveau. Si on a eu la malchance d'hériter une double dose du gène qui amène ces protéines au cerveau, la démence souvent va s'annoncer à l'âge de 50, 40, donc très tôt. Ce n'est pas le cas pour ceux qui ont plus que 70, 60, qui ont peur de la démence. Ce n'est pas en général la maladie d'Alzheimer comme telle. C'est vrai que nous avons tous cette protéine toxique dans le cerveau, mais il y a beaucoup de preuves que les cerveaux fonctionnent très bien malgré la présence de ces protéines toxiques dans le cerveau.
Oui.
On passe à travers ça très, très bien. Ce qu'il faut absolument éviter, par contre, c'est de diminuer le débit sanguin au cerveau. Et donc, c'est les 7 règles pour diminuer les risques, les possibilités que les grands et petits vaisseaux sanguins qui amènent l'énergie au cerveau diminuent dans leur quantité et qualité.
Oui. On va y revenir, bien sûr, à comment éviter ces impacts. Mais avant, je veux rassurer les gens qui nous écoutent, et vous le faites dans le livre en disant les trous de mémoire, c'est normal. Et j'aimerais que l'on fasse la différence entre ces blancs qui nous arrivent tous et des signaux plus alarmants.
Oui. Alors, en fait, c'est très facile. Si une perte de mémoire qui vous arrive, et ça arrive à tout le monde, ne diminue pas votre efficacité au travail, ne diminue pas votre qualité de contact avec les autres, vous permet d'être aussi efficace. Ces trous de mémoire, il ne faudrait pas trop s'en préoccuper. Si vous allez à la cuisine pour chercher quelque chose, puis arrivez là, vous avez oublié pourquoi vous vous dirigez vers la cuisine, eh bien, arrêtez, ça prend une minute, puis vous allez vous rappeler. Ça, c'est une perte de mémoire qui est normale, si vous voulez. Je donne un autre exemple dans le livre, cet accident horrible d'auto que vous avez vu il y a 15 ans. Aujourd'hui, vous vous rappelez plus des détails, mais c'est parce que le cerveau a décidé que, effectivement, vous n'en avez pas besoin de vous rappeler des détails de cet accident.
Oui.
Alors, il laisse tomber.
Oui.
Il est là toujours à faire un triage.
Oui.
Pour savoir ce qu'il faut garder,
ce qui est
nécessaire.
Et vous donnez un exemple qui est très parlant en disant, si vous oubliez le nom de famille ou le prénom d'une personne que vous croisez des fois, ça va. Si c'est votre fils, le collègue que vous voyez tous les jours, peut-être que là, il y a un petit signal d'alarme à y mettre.
Et c'est important de dire, je m'excuse que quand ce signal vous arrive, vous avez croisé une personne, vous pensez devoir vous rappeler de son nom, mais vous ne le faites pas, il ne faut pas trop attendre pour aller demander à votre médecin, écoutez, est-ce qu'il y a un problème? Ou est-ce que c'est une perte de mémoire qui est normale? Parce que parfois, on peut en souffrir de problèmes de mémoire à cause de manque de vitamines, etc. Ouais. etc. Ouais. Donc, c'est des choses qu'on peut arrêter, des processus qu'on peut arrêter.
Oui. Je le disais en introduction, 44 millions de personnes dans le monde qui sont touchées par la démence, avec tous les proches, la famille, ça fait pas mal de monde, ça pourrait tripler en 2050. Les gens sont préoccupés. Il y a des trucs que l'on voudrait insérer dans notre quotidien. Les jeux de mémoire, hein, on se dit « Ah, ça pourrait nous aider, les mots croisés, les sudoku, on sait, c'est très à la mode. » Vous mettez un petit bémol là-dessus.
Oui, je mets un petit bémol parce que notre cerveau est un organe très, très complexe. Hein? Oui. Il se tanne vite. il veut plus continuer. Hein?
Alors, il est paresseux parfois un peu.
Il est paresseux, oui. Il est paresseux parce que ça coûte cher de faire... Si vous faites du sudoku à la journée longue, s'il y a une partie dans votre cerveau, un petit coin qui s'appelle sudoku, eh bien lui va s'élargir, se renforcer, etc. Mais il ne faut pas s'attendre qu'en faisant du sudoku à la journée longue, vous allez vous rappeler la date de naissance de votre sœur.
Ouais.
Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de transférabilité des activités que vous imposez à votre cerveau. Donc, il faut faire et variété et assiduité
ouais.
dans les choses que vous imposez à votre cerveau.
Oui, et ça a été un passage que j'ai trouvé fascinant dans le livre, de dire il est peut-être préférable de varier nos activités,
voilà.
lecture, musique, apprentissage d'une langue,
voilà.
Que de juste cibler sur, bon, une activité. Vous parlez également des liens sociaux, des liens affectifs. Ça aussi, c'est un facteur de protection.
Oh, énorme. Écoutez, nous sommes des êtres humains qui dépendent des liens que nous avons avec des gens qui nous aiment. C'est simple, c'est direct, c'est comme ça. La dame qui, après beaucoup, beaucoup d'années de mariage et plusieurs enfants, les enfants vont partir chercher ailleurs leur fortune et le mari, tout d'un coup, meurt, eh bien, cette femme est à un risque très élevé de démence parce que tout d'un coup, elle se réveille le matin puis il n'y a aucune raison de se réveiller. Il n'y a personne à qui servir. Puis tout d'un coup... les voisines ne veulent plus aller la voir parce que, bon, elle est triste, elle est un peu emmerdante, elle est triste. Elle est isolée. Puis l'isolement amène la dépression. Puis la dépression, c'est ligne directe vers la démence.
Oui. Vous parliez de ce flux sanguin hein, qu'il faut
oui.
surveiller. Évidemment, on ne le voit pas. Là. C'est pas comme, il n'y a pas un écran dans notre cerveau. Toutefois, on sait qu'il y a certaines maladies chroniques qui peuvent avoir des répercussions.
Tout
hypertension,
fait.
Vous en parlez
oui.
d'ailleurs.
Oui, oui. C'est de plus en plus, c'est devenu important. Écoutez, j'espère que je ne l'ai pas déjà mentionné, mais votre cerveau pèse 2% de votre corps et consomme 25% de l'énergie que votre corps produit. Pourtant, un organe qui ne bouge pas, qui ne pompe pas, qui ne se rétrécit pas, qui ne court pas, c'est pourquoi ? Parce que le cerveau, il est actif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, il dépend de cette perfusion sanguine. Si une personne va souffrir un accident cérébrovasculaire parce que ils ont refusé de traiter leur pression artérielle, ils ont insisté à fumer, ils sont sédentaires, etc., etc., eh bien, ce qui va arriver, c'est qu'il y aura un vaisseau sanguin qui va se refermer, amenant une diminution importante au débit sanguin au cerveau, et le cerveau ne pardonne pas
ouais.
ces problèmes.
Mm-hmm.
Il y a deux choses importantes à dire. Primo, si une personne sent que tout d'un coup, elle est incapable de faire quelque chose qu'elle était capable de faire il y a quelques secondes, c'est probablement un accident cérébrovasculaire. Et il y a un traitement pour ça. À condition qu'on s'amène à l'urgence rapidement, il y a un traitement. Vous rentrez paralysé, le lendemain, vous retournez chez vous, pleinement en bonne santé. Donc, il ne faut pas oublier que les accidents cérébrovasculaires qui s'annoncent à la personne sont traitables.
Oui. Le cerveau ne pardonne pas, mais dans certains cas, il peut se renouveler.
Ah, tout à fait, tout à fait. Il ne faut jamais abandonner l'espoir ou les efforts pour retourner au cerveau ses capacités.
Mm-hmm.
Le cerveau est là pour vous servir. Donc, par exemple, Prenons le cas d'une personne qui va souffrir un accident cérébrovasculaire avec une faiblesse au bras droit. Sa tendance est de ne pas activer ce bras droit et d'utiliser le bras gauche. Bien, aujourd'hui, une façon d'amener une récupération, c'est de mettre le bras gauche dans un foulard pour vous forcer
à utiliser le,
le bras droit qui est faible. Le cerveau dit « Ah, mon Dieu, si je comprends bien, il veut que j'amène une amélioration au bras droit, je vais m'y mettre. »
Oui. Et j'imagine aussi de se forcer, même si, bon, jouer du piano, c'est pas notre force, pas notre facilité, de quand même tenter, apprendre une langue aussi, donc de se mettre un petit peu au défi.
Tout à fait.
Et il n'est jamais trop tard pour le faire. Oui. Ça, c'est ce que vous nous révélez dans Préserver votre vitalité mentale. Et jamais trop tôt. Donc, les parents, les grands-parents ont aussi une responsabilité par rapport aux facultés cognitives de leur enfant.
Tout à fait. Tout à fait. On prend les habitudes, ce cerveau qui va vous servir à l'âge de 75 ans et le résultat de tout ce que vous avez fait avec depuis l'âge de 2 ans.
Oui.
Donc, il n'oublie pas, il ne pardonne pas, mais il est là pour vous servir. Par exemple, je me rappelle du grand-papa qui se plaignait parce que quand il a invité ses petits-enfants pour aller au restaurant, il s'asseyait autour de la table. Et puis, chacun des petits-enfants sortait sa petite machine à pitonner. Bon, il disait, la seule fois qu'ils ont enlevé les yeux pour regarder ailleurs, c'était quand le garçon, et le serviteur est arrivé pour prendre leur commande. Puis là, aussitôt fini, ils retournent. Aussitôt qu'ils ont bouffé, même pendant qu'ils mangeaient, ils regardaient leur écran. Bon. Tout ça, c'est pour dire que j'ai rien contre... J'utilise mon écran comme tout le monde, mais il faut comprendre que ça nous change...
Ça change les connexions.
Ça change les connexions au cerveau.
Oui.
Et il faut faire exprès pour surmonter le fait que pendant que vous pitonniez sur votre petite machine, le cerveau était paresseux.
Oui. Je pense que, et on devra se quitter parce qu'il reste peu de temps, ce qu'il faut retenir, c'est que ces milliards de connexions, on a un certain pouvoir là-dessus de les interchanger, de les peaufiner.
Tout à fait.
Et ben, c'est à nous, on est les maîtres de notre cerveau. Alimentation aussi, vous en parlez. Et également, toute l'approche que l'on peut avoir avec les personnes qui souffrent de démence. Il y a une sensibilité aussi, un encadrement et un suivi. On aurait aimé vous garder plus longtemps, docteur Hakim.
Ah, ben, ça m'aurait fait plaisir, mais peut-être pour une autre fois.
Peut-être pour une autre fois, parce que vous êtes à Ottawa, mais bon, c'est pas trop loin.
Oh, pas du tout! ça se fait très bien. Et puis, le livre est là toujours pour les détails.
Préserver votre vitalité mentale, 7 règles pour prévenir la démence aux éditions de l'Homme. Docteur Hakim, vous êtes neurologue à l'Hôpital d'Ottawa, professeur à la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Merci à vous pour notre cerveau.
Merci, ça m'a fait vraiment plaisir.
Jean-Sébastien Laliberté, derrière sa console, c'est Marianne Paquette au micro. Rendez-vous demain, une table ronde, comment survivre au décès par suicide de son enfant avec psychiatre et parents endeuillés. C'est un rendez-vous, portez-vous bien.